un sentiment que je voudrais partager avec vous, bien que le domaine de l'EAC ne me soit pas très familier, c'est que j'ai le sentiment que la disponibilité massive de ressources numériques change l'approche que nous avons tous des projets qu'on peut conduire avec les publics destinataires. Alors le lien entre action numérique, action physique, dialogue avec un groupe, c'est quelque chose qui existe, hein, on s'en est tous saisis, mais qui me paraît devoir être sans cesse réinventé. D'une part parce que les ressources augmentent considérablement et rapidement, et d'autre part parce que les outils aussi s'adaptent. Et quand je disais qu'il était possible de réutiliser les documents de Gallica grâce aux petits outils qu'on met à la disposition, en fait, ces documents, vous les trouvez aujourd'hui sur des sites, bien évidemment, sur des blogs, sur des pages Facebook, dans le cadre de catalogues enrichis, des bibliographies entièrement numériques. Je pense qu'il faut laisser aller son imagination sur la manière de réutiliser ce patrimoine numérique qui appartient à tout le monde.
Mais pour compléter ton propos, je dirais qu'on s'aperçoit aussi que plus les outils numériques sont nombreux et complexes, plus le besoin de médiation est important. Donc nous, ça, on le constate dans nos séances, on le constate lorsqu'on va en territoire pour ce projet EAC en territoire. Et l'exemple classique, c'est très souvent on fait des formations, nous notamment aux enseignants, sur les ressources numériques. Alors vous avez quoi dedans? Vous avez le site classe, vous avez Gallica, vous avez les expositions virtuelles, vous avez le site Passerelle qui à l'origine est un site plutôt d'histoire des techniques mais qui est désormais beaucoup plus que cela. Et on constate qu'il y a trois niveaux. Nous-mêmes, parlant bibliothécaire, c'est-à-dire une langage incompréhensible, on se dit que tout le monde sait que ça existe. Non, c'est faux, tout le monde ne sait pas que ça existe. Deuxième niveau, donc on n'est même pas encore à l'appropriation, c'est je sais que ça existe, je sais quelques fonctionnalités, mais je ne peux pas me l'approprier. Et donc, de plus en plus, il faut, nous, qu'on aille vers le troisième niveau. Donc, ce n'est plus une séance où on montre des choses en espérant que l'écran ne plante pas, mais c'est vraiment un atelier de pratique. Avec les outils et d'appropriation de l'outil. Deuxième exemple pour illustrer le propos d'Aline, lors des dernières journées portes ouvertes que nous avons fait donc à l'automne 2015, il y avait ton équipe de Gallica qui était là, qui montrait comment on peut, avec les albums patrimoniaux pour enfants, faire des pantins à partir de Gallica. Alors le genre de chose qui est typiquement de l'EAC qui ne dit pas son nom, qui est relativement facile à mettre en œuvre, mais tant que on n'a pas mis la main à la pâte, et c'était tout l'intérêt de cet atelier qui avait été ouvert à tout le monde dans les espaces du site François Mitterrand, on ne peut pas le prendre en main. Donc j'en reviens à l'idée, de plus en plus de numérique, mais de plus en plus de médiation et non l'inverse, et alterner l'aspect pratique et l'aspect plus théorique, plus général.
Merci. On va prendre une question.
Oui, bonjour, Nathalie Mansuit, Odeschini, médiathèque départementale de Seine-et-Marne. Ma question se porterait sur la question de la coopération internationale, ou au moins européenne, sur ces questions de l'éducation artistique et culturelle, comme ça a été évoqué d'ailleurs avec la collègue de Sarreguemines. Comment, nous, en tous les cas, en Seine-et-Marne, on travaille sur l'axe interculturalité, ouverture aux langues et aux cultures. Comment la Bibliothèque nationale, l'organisme national, la vocation qui travaille justement, qui a une mission peut-être en dehors aussi du territoire, comment pourrait-elle permettre à des structures départementales, intercommunales, enfin en région, de travailler sur ces questions pour des présences artistiques qui aillent au-delà, qui ne soient pas stricto sensu nationales, mais qu'on puisse aussi se nourrir de l'extérieur pour le bénéfice des jeunes. Merci.
C'est un peu une colle que vous posez, Nathalie. Bon, il y a toute une... De la même manière qu'il y a un département de la coopération, de la même manière, il y a une structure qui s'occupe de l'international à la bibliothèque. Donc ça, c'est le premier niveau. Et je ne vous apprends rien si je vous parle de l'engagement ancien de la BNF dans Européana. Donc il y a de nombreux projets structurants. Mais c'est des projets à très large échelle. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, pour avoir moi-même été très impliqué dans tout ce qui est IFLA et la communauté des bibliothécaires internationaux, j'observe qu'il y a des domaines à l'international qui marchent bien et des domaines qui marchent moins bien. Les catalogueurs, comme ils ont eu besoin de trouver un langage commun, il y a un long historique, il y a une longue traîne, si vous voulez, de coopération internationale en catalogage. Et j'imagine qu'il y a le pendant chez mes amis archivistes. Mais à l'IFLA, où il y a 40 sections, il n'y a pas de section sur la médiation. Ça pose question. Donc dès qu'on est sur la diffusion culturelle, quelle est la bonne coopération? Le troisième élément de réponse, bon, évidemment, dès qu'on est sur un territoire frontalier, c'est plus facile de trouver des idées. Moi, je pense, comme service pédagogique d'un établissement national, qu'on a sans doute des choses à faire sur l'international qui est près de chez nous, et je pense par exemple aux nouveaux arrivants. Alors c'est un travail qui se fait avec l'associatif, et il y a des structures à la BNF qui travaillent avec ces publics éloignés, mais je pense que ça devrait être idéalement un projet partagé sur ce genre de choses. Et puis je me pose des questions également sur les Français ou les francophones ayant dans un cadre scolaire ou plus général une intervention en langue étrangère. Je vais vous donner deux exemples. Demain, dans le concours de récitation, il y a une école internationale du 17e arrondissement qui est là. C'est intéressant de voir les textes qui sont choisis. Deuxième exemple, on a à l'automne une exposition à Avdon. Je me suis rapproché de la fondation Mona Bismarck parce qu'eux, ils sont en rapport avec des profs d'anglais. Ils amènent, c'est un partenariat qu'on va monter, ils vont amener leur classe avec des profs d'anglais pour des conférences en anglais sur des conférences chez nous. Donc je pense que la problématique internationale, on l'attrape à droite et à gauche, mais non, il n'y a pas de département du développement de l'EAC international. C'est un peu trop au-delà de l'horizon aujourd'hui. Et je pense que c'est en même temps un peu un symptôme, parce qu'on est sur des domaines à la limite du très large, du très culturel et du très technique. Et si je reviens à l'exemple de l'IFLA, c'est bizarre, alors que toutes les bibliothèques du monde font de l'action culturelle, et les bibliothèques jeunesse sont les plus dynamiques en général dans ces domaines-là, qu'il n'y ait pas de section sur ce domaine-là.
Alors, comme je n'ai pas vu de main se lever et que je tiens le micro, je vais donc me donner la parole avec votre permission. Donc, je suis Christophe Barret du service éducatif des Archives nationales et je suis en charge justement de la question de l'éducation à l'interculturalité. Si vous regardez le dernier numéro de Mémoire d'avenir, ce petit journal des Archives nationales qui doit être dans votre dossier, qui est à votre disposition, pardon, dans le hall d'accueil, vous verrez un petit encart sur l'éducation à l'interculturalité, le point où nous en sommes au service éducatif des Archives nationales. Je salue ici la présence d'une collègue du responsable du service éducatif des Archives de Catalogne, avec laquelle donc, nous développons un projet autour de la mémoire de l'exil espagnol en France. Il est vrai que nous avons 5 années d'expérience un peu d'éducation à l'interculturalité, un peu plus maintenant. Nous avons commencé en partenariat avec le lycée espagnol de Paris. Alors c'est un étranger proche aussi, puisque c'est un établissement étranger en France. Et la Consejería de Educación de España en Francia, c'est-à-dire l'Office pour l'éducation de l'ambassade d'Espagne en France. Pour que ce genre de partenariat soit fructueux, au bout de 5 ans, on peut tirer quelques conclusions. C'est vrai qu'il faut que l'étranger aussi soit demandeur d'une collaboration. En Espagne, il y a eu quelque chose de très important en 2007, qui était la loi sur la mémoire historique, qui est donc une loi qui donnait droit à réparation pour les gens qui avaient été exilés en France ou à leurs descendants. Donc, en interne, le service éducatif des Archives nationales fonctionne, Annick vous l'expliquait hier, hein, dans un dialogue à 3 voix entre monde de l'éducation que nous représentons, monde de la recherche et monde des archivistes. Face à cette demande espagnole d'archives de l'exil en France, les archivistes ont créé de nouveaux instruments de recherche. Il y a eu un guide des sources de l'histoire de l'immigration en France qui existe, ça c'est très important pour pister ce genre de projet, qui nous aide aujourd'hui à développer par exemple un partenariat autour de l'histoire de l'immigration, mais en local justement avec en pensant aux arrivants. Il faut qu'il y ait une demande aussi de l'étranger. Je pense à un point d'appui, ça peut être aussi les bacs internationaux. On travaille notamment dans le cadre du BACHIBAC, le baccalauréat français franco-espagnol, qui donc a des quelques pendants hein, avec l'Angleterre et puis l'Italie aussi. Il y a des bacs maintenant binationaux dans lesquels on peut s'inscrire et là répondre vraiment à des demandes d'enseignants qui sont à la recherche de séquences pédagogiques qui permettent aux jeunes de s'entraîner à l'examen oral qu'ils auront au cours de ces entretiens. Donc si on double ça avec un petit peu les ressources en ligne et puis les plateformes collaboratives dont j'imagine on a déjà un petit peu parlé, on peut avoir de beaux produits d'appel, je dirais, et puis répondre vraiment à notre vocation qui est celle de l'innovation pédagogique et de l'expérimentation pédagogique. Il est vrai que les professeurs se retournent vers les services éducatifs quand ils ne trouvent pas ailleurs ces ressources qu'ils ont. Donc on a même en projet un petit peu de développer encore ce partenariat avec la BNF autour de ces archives de la presse aussi pour offrir aussi un appui dans les gens qui sont dans ces nouveaux parcours interdisciplinaires à la rentrée qui vont poser pas mal de soucis. Mais je m'enlève la parole tout de suite.
Merci. Je peux vous donner un exemple tout à fait empirique, c'est celui du projet que j'évoquais tout à l'heure avec la Fondation Gensagan, auquel d'ailleurs le ministère de la Culture est aussi associé. Puisque nous travaillons sur la question de l'éducation à l'interculturalité par les arts et la culture au sens large, on a tout simplement sollicité, mais d'abord des compétences au fond, le musée d'histoire d'immigration et qui nous apporte sa compétence à travers d'abord une personne, parce qu'on a d'abord fait du brainstorming, enfin du remue-ménage, et puis bien sûr on espère, et je crois qu'on est en bonne voie, que le musée sera pleinement un partenaire de ce projet. Bon, vous voyez, on peut aussi fonctionner dans ce sens-là, c'est-à-dire solliciter, après tout, nos établissements nationaux, et il y a toujours une bonne volonté pour s'engager. On m'a donné la consigne de ne pas trop dépasser 12h45, mais je voulais revenir simplement sur une formule que vous avez prononcée, et je crois qu'il revient un peu à chaque occasion de rencontres de ce type, faire savoir ce que l'on fait, vous disiez, mais il faut aussi savoir faire savoir ce que l'on fait. Et c'est un vrai défi. Et puis, il faut bien identifier nos interlocuteurs. Juliette, comment vous faites-vous pour faire savoir ce que vous faites, en particulier à vos élus, les élus d'intercommunalité, les élus des communes, pour qu'ils soutiennent un peu mieux votre projet ?
Je ne suis pas la meilleure placée pour répondre à cette question, puisque moi, j'ai très peu de contact avec les élus. À la médiathèque, on a la chance d'avoir une chargée de com. Et ça, c'est important, parce que c'est très important d'avoir des documents à présenter et à faire circuler. C'est très important aussi de choisir les bons filons pour faire circuler l'information. Et je pense qu'avec les élus, c'est ça aussi, c'est trouver le moment, la personne pour leur parler, le moment pour leur parler, de leur montrer que nos actions, elles ont... elles portent leurs fruits. On a eu la chance d'avoir des élus lors de l'inauguration de la Biennale Petite Enfance. Et ils étaient très, très étonnés du monde que ça touchait, des actions qu'on avait mises en œuvre. Mais alors que c'est la sixième, hein, ça fait 12 ans qu'il y a la Biennale Petite Enfance. Voilà. Et on a énormément de travail, puisqu'on souhaitait... lancé au moment de la Biennale Petite Enfance, on souhaitait lancer une initiative que je porte et que je soutiens, c'est-à-dire on comptait offrir à la naissance de chaque enfant sur le territoire de Tulagloo une carte de bibliothèque. Ça se fait aux Pays-Bas. Ça coûte vraiment très peu de choses. On était en partenariat avec le service de l'État civil pour le côté technique, et le président de l'agglo a dit « Mais ça sert à quoi ? De toute façon, les bébés, ils ne savent pas lire. Pourquoi vous allez embêter les parents avec une carte de bibliothèque ?»
Ah, bon. Il y a encore beaucoup de pédagogie à faire.
Voilà.
Bon, eh bien, il y a beaucoup de travail aussi à faire pour lutter contre les inégalités territoriales, surtout beaucoup de vigilance à avoir dans la période actuelle. Je remercie. Ah, il y a une dernière question ? Alors, c'est un tout petit témoignage. Merci.
Justement, ma fille, qui est d'origine étrangère, mais née en France, après avoir épousé un Français dans une banlieue parisienne, a reçu avec son gendre, son mari, pardon, mon gendre, ils ont reçu la carte de la bibliothèque de Madame le maire ou Monsieur le maire. Ça, c'est pour parler des bébés et leur futur bébé fréquentait la bibliothèque de cette commune. Je voulais juste apporter le petit témoignage, parce que vous avez parlé des Espagnols, d'une des plus dynamiques que je qualifie de bibliothèque de France, qui est Serret, Pyrénées-Orientales, qui coopère, me semble-t-il, un petit peu avec le musée des arts. Vous êtes de Serret, peut-être ? Oui. Et, ils organisent, à ma connaissance, à peu près 70 manifestations par an. Le dynamisme vient du but qui se sont fixés, c'est-à-dire de la direction qui s'est donnée pour mission faire valoir les ressources locales et pas seulement locales et visibilité de la médiathèque. Et elle accueille tout un Catalan comme des étrangers.
Merci. Mais la leçon que je tire de cette matinée en particulier et de toutes ces journées, c'est la richesse et la variété des expériences qu'il faut effectivement mieux faire partager pour que le soutien dont elles ont besoin se poursuive. Je remercie tous les intervenants de la matinée, les organisateurs aussi pour tout le travail qui a été accompli. Vous pour votre attention et je crois que c'est l'heure du déjeuner. Merci. Oui.